Autre radio, autre culture, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui Cyril Holtz, bonjour.
Bonsoir.
Et Niels Barretta, bonjour.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Fort bien, ça va.
Et bien sûr, nous sommes en compagnie de mon candide préféré, mon questionneur favori de l'émission, Christophe Bouillot.
Bonsoir. Bonsoir.
Bien, nous allons parler cinéma, nous allons parler son, oui. Nous allons parler mixage. Cyril est mixeur, Niels est ingénieur du son, donc vous allez nous parler des problèmes et des difficultés actuellement dans le cinéma, et puis ce que vous proposez, puisque vous avez plein d'idées.
Ouais, quelques-unes. Mais...
Des problèmes techniques surtout, on ne va pas se pencher sur l'état de l'industrie.
Oui, oui, problèmes techniques. On aurait trop à faire, je pense.
Voilà.
Alors vous représentez la société HAL, et la société HAL, alors qu'est-ce que c'est ?
Bah, la société HAL, au départ, c'est une association de plusieurs ingénieurs du son qui couvre un peu tout le domaine de la production cinéma. Ça va des ingénieurs du son, ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire qui font la prise de son sur les tournages, les monteurs son et les mixeurs. Il y a un directeur technique aussi. Et voilà, on couvre un petit peu toute cette chaîne-là. Et on s'est associé pour trouver des nouvelles solutions, des idées, faire un peu de recherche... Voilà, sur les problèmes qui nous concernaient tous depuis un petit moment.
Alors, quels sont ces problèmes ?
Ce qui nous intéresse ce soir, c'est les problèmes liés à la transposition des bandes son cinéma vers les supports vidéo, c'est-à-dire DVD, Blu-ray et diffusion télé. Donc, on se plaignait beaucoup, notamment à nous, puisqu'on est les premiers concernés, du fait que, quand on entendait un film à la télé qui était fait pour le cinéma, souvent on avait des problèmes de compréhension des voix, on passait son temps à mettre plus fort, moins fort. Alors le problème était un peu moins extrême sur les choses qui étaient diffusées à la télé en stéréo, en SD, mais beaucoup plus prégnant sur tout ce qui était DVD, Blu-ray, etc. Donc, fort de nos expériences aussi, et puis nous aussi on était très frustrés par rapport à ça, on s'est dit qu'il était temps de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de trouver une solution, enfin des solutions s'il en existait à ces problèmes-là. D'où cette idée de créer une salle de mastering vraiment dédié à la réduction des formats son-cinéma vers des formats vidéo.
Parce que si j'ai bien compris, autrefois, il n'existait pas de salle précise spécialisée là-dedans ?
Non, c'est-à-dire que la demande des formats son pour la vidéo était moindre, puisque effectivement, il y avait la diffusion télé, mais en dehors de ça, il y avait les VHS, etc., ce qui remonte très loin. Et puis avec l'avènement du DVD, des Blu-ray, et autres diffusions télé en multicanal, sont nés de nouveaux besoins. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de paradoxal. Les gens voulaient être plus proches des bandes son originales cinéma, mais en même temps, on avait plus de mal à les exploiter parce qu'elles n'étaient pas du tout adaptées à des diffusions télé ou sur des supports vidéo. Les bandes son étaient trop dynamiques, les écarts entre son fort et son faible étaient trop importants, et puis il y avait des gros problèmes de compréhension des dialogues parce que ces bandes son étaient en premier lieu destinées à une diffusion en salle de cinéma, et les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. En salle de cinéma, on a le droit à une dynamique très importante, en télé beaucoup moins, parce qu'on ne regarde pas, on n'écoute pas un film chez soi comme dans une salle de cinéma.
Malgré ces nouvelles installations que font les gens avec des home cinéma et autres, y a quand même une différence entre eux, ceux qui sont avec multiples enceintes et autres pour regarder un film et celui qui n'a que sa petite télé.
Absolument. Et justement, ça fait une multiplicité de formats. Et c'est-à-dire que l'idéal, ce serait de pouvoir proposer aux gens qui n'ont qu'une télé un programme son qui s'adapte aussi bien chez eux que sur la personne qui a une installation démentielle. Donc c'est très difficile d'obtenir une bande son qui soit compatible avec toutes ces installations-là. Donc on s'est penché sur le problème. C'est vrai qu'il y a une demande de plus en plus importante. On a besoin de faire de plus en plus de formats. À l'heure actuelle, on en parlera peut-être plus tard, mais en salle de mastering, on est obligé de construire au bas mot 8 à 9 formats différents, selon que c'est pour le Blu-ray, selon que pour le DVD, les formats stéréo, les formats multicanaux. Donc évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir une seule bande son qui satisfasse tout le monde et qui soit adaptable sur tous les supports, mais c'est absolument pas le cas. Donc on multiplie le nombre de formats et évidemment, tous ces formats sont liés au nombre de contraintes qu'on a.
Quel est le travail de Niels dans cette opération ?
Ben, mon travail, en fait, c'est d'accueillir les mixeurs dans cette salle de mastering et de faire avec eux toutes les versions. Donc mon travail, c'est de les encadrer parce que, en fait, ils arrivent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas et ils sont assez vite déstabilisés par l'écoute parce qu'on n'est plus dans une écoute cinéma, on est dans une écoute domestique, donc on n'a plus du tout les paramètres qu'on a dans une écoute cinéma. Et en fait, moi, je les accueille, je prends en charge tout le côté technique du mastering. Je leur laisse, en fait, la prise en charge du son, en fait. Je les accueille et eux, ils gèrent le son comme ils l'entendent.
D'accord. C'est pas vous spécialement qui vous occupez de tout, finalement ?
Ça dépend. C'est-à-dire qu'évidemment, comme le disait Niels, quand un mixeur arrive, lui, il est fort de son expérience, évidemment, en mixage cinéma, et aussi de la parfaite connaissance qu'il a de la bande-son, puisqu'il vient avec son film. Au départ, effectivement, Niels est là pour l'orienter sur des choix techniques, mais aussi, du fait de son expérience, Niels a masterisé déjà un certain nombre de films, donc il sait vers quoi il faut aller, il connaît parfaitement les contraintes, notamment des chaînes de télé, par rapport à la diffusion, et il a employé beaucoup d'outils techniques dont il connaît les qualités et les défauts. Donc au départ, c'est vrai que c'est plus un travail d'orientation, mais dans la pratique, on s'aperçoit que finalement, quand la confiance s'établit, certains ingénieurs du son, certains mixeurs, s'en remettent beaucoup à Niels pour le travail, même parfois d'équilibre, de mixage, et c'est un travail qui se fait de concert, du coup, pour que la bande-son transposée en vidéo ressemble le plus possible à la bande-son originale.
Parce que ce que je fais en général, c'est que je viens voir le film dans l'auditorium de mixage et donc je m'habitue à la dynamique du film. Je m'habitue au réglage, au son et en fait après, quand j'arrive dans la salle de mastering et qu'on commence à travailler, j'ai déjà un petit peu en tête ce que je dois faire.
Sur quel type de support vous bossez ? Vous récupérez des stems que vous remixez vraiment pour adapter au support final, ou est-ce que vous récupérez vraiment une bande-son un peu comme en musique où l'ingénieur du son de mastering récupère un master stéréo sur lequel il va faire ses traitements? Est-ce que vous faites du, entre guillemets, du remix ou juste vraiment du traitement sur les bandes finales?
Non, vraiment l'optique c'est vraiment du remix parce qu'on s'est aperçu qu'avec les expériences passées que malheureusement si on partait de la bande-son originale, c'est-à-dire du 6 pistes, du 5-1 original, c'était vraiment trop compliqué, on était contraint de faire trop de concessions. Donc on s'est dit, voilà, à partir du moment où ce qu'on appelle le multi, c'est-à-dire la somme des prémixages, paroles, musique, ambiance, effets, bruitage, est strictement égale au 5+1 global, à partir de ce moment-là, on pouvait agir directement sur ces éléments pour pouvoir les rebalancer en fonction des nouvelles écoutes et des nouvelles contraintes qu'on a. Donc l'idée, c'est vraiment, au lieu de se dire, bon, allons-y à partir de la bande-son et on fait ce qu'on pourra, là, c'est de dire, c'est une étape à part entière, c'est une étape de remixage. Même si le but est évidemment de préserver toutes les intentions du réalisateur et du mixeur, évidemment, dans la bande-son. Mais on s'est aperçu que pour y coller au mieux, malheureusement, il fallait remettre ses mains dans le cambouis.
Justement, les mixeurs, ils ont vu ça d'un bon œil. Quel a été l'accueil quand vous avez dit, parce que c'est une grande première, j'imagine, quand vous avez dit, on va prendre vos trucs, on va les masteriser, on va refaire les...
Ouais, mais c'était un besoin qu'on avait tous. Moi, je suis mixeur, donc je sais que j'avais ce besoin-là. Il y a déjà des mixeurs qui ont pris les devants, sans doute, et qui, chez eux, par exemple, sont constitués leur petite installation pour faire ça. Nous, on s'est dit, voilà, on va essayer de créer un outil assez polyvalent, qui obéissent à un certain nombre, à un certain cahier des charges. Et je pense que tous les mixeurs qui sont déjà passés, autres que moi par exemple, et les gens de Halle, tous les mixeurs qui sont passés dans la salle de mastering en sont sortis, je crois, plutôt contents, parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est pas du tout à remixer le film, c'est au contraire à les aider tout en ayant conscience des contraintes et en collant aux différents problèmes qu'on rencontre, c'est d'essayer de préserver au mieux cette bande-son. En tout cas, je pense qu'on a eu un accueil qui a été assez favorable. Évidemment, au début, les gens ne savaient pas trop, donc il n'y avait pas de méfiance, je ne pense pas, mais en tout cas, ils se demandaient un petit peu ce que ça allait donner. C'était une optique un peu différente, c'est vrai. Mais je pense que les mixeurs qui sont passés là en sont sortis, j'espère et j'imagine, assez contents.
toute façon, dans la mesure où le mixeur est là, il n'y a pas de souci parce qu'il est, voilà, il valide et c'est même lui qui me guide. Donc je fais en fonction de sa sensibilité.
On a vécu une grosse crise dans la musique, enfin on vit toujours une grosse crise depuis quelques années. Dans le film, on entend dire que ça commence à arriver. Vous n'avez pas de soucis pour entre guillemets, imposer ça aux productions? Combien de temps ça prend? Parce que si vous faites le remixage complet dans 8-9 formats, j'imagine que ça prend pas mal de temps. Vous arrivez à imposer ça? Vous arrivez à leur faire entendre raison, à leur faire comprendre que c'est pour eux, dans leur intérêt? Il n'y a pas eu trop de réticence?
Bah, ça fait partie de la démarche, vraiment. Vraiment, le premier truc dans cette démarche, c'était de dire ça suffit de faire les choses à la va-vite, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pondre tous ces formats, on se retrouvait dans une situation aberrante où on était dans un auditorium de cinéma, donc qui n'est pas du tout adapté à une écoute domestique, à faire un ou deux formats en même temps qui allaient après être déclinés dans 8 ou 10. Donc, c'était totalement aberrant, puisqu'il n'y avait pas, selon qu'on diffuse en 5.1 pour la télé ou en 5.1 pour le Blu-ray, c'est pas les mêmes problèmes qu'on rencontre, c'est pas les mêmes installations, etc. Donc, ça faisait partie de notre démarche de dire, voilà, on ne veut plus faire les choses en une demi-journée rapidement comme ça, on veut faire les choses bien. Donc là, il s'avère que sur un film d'une durée d'environ 1h30, 1h40, il nous faut au bas mot 4 jours pour faire tout ça. Donc on multiplie par 4 le temps. On a aussi créé la compétence de Niels, qui est le premier à faire ça. Donc évidemment, Niels est rétribué. Évidemment, ça a un coût. Et au début, les productions, bien sûr, étaient un peu réticentes, parce que c'est vrai que ça leur coûte plus cher. Mais je pense qu'au fur et à mesure, elles ont compris que c'était un gage de qualité et qu'elles risquaient évidemment beaucoup moins de rencontrer des problèmes par rapport à des refus de PAD, c'est-à-dire des télévisions qui refusent de diffuser un programme parce qu'il n'est pas aux normes en termes de son, et que consciente de tous les formats, la multiplicité des formats qui existent actuellement, même les productions étaient perdues dans tout ce micmac. Donc nous, on est assez au courant, on est même très au courant des contraintes techniques liées aux chaînes et aux diffuseurs vidéo. Donc ça a été d'un commun accord au fur et à mesure. Elles ont eu confiance et on a pu faire les choses correctement. Mais évidemment, ça a un coût. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que pour une certaine qualité, voilà, il faut payer un minimum.
Alors, je reprends ce que tu viens de dire et je demande un peu une confirmation. C'est-à-dire que le travail que vous faites se fait en amont, avant la présentation dans les salles, ou alors vous pouvez venir, une fois que le film est passé dans les salles, on vous demande de revenir sur les bandes-son pour qu'elles puissent passer soit en DVD, soit dans les télévisions. Ça se passe comment?
Alors là, en fait, une fois que le film, le 5.1, enfin la bande-son originale du film est faite, est décidée, actée, validée, etc., la diffusion en salle importe peu. C'est-à-dire que c'est des travaux qui peuvent se faire soit dans la continuité de ces travaux-là, des travaux du film en salle de cinéma, soit un peu après. Mais en général, les productions préfèrent que tout se fasse dans une même lancée, parce que c'est la production qui paye les travaux, et en général, on a un certain temps, et comme elles veulent être à même de pouvoir livrer aux chaînes de télé les formats vidéo le plus vite possible, etc., évidemment, en général, ça se fait le plus vite possible après le mixage du film en lui-même. Il y a une continuité, en plus, c'est mieux pour nous, on a le film dans la tête, on est sur notre lancée. Quand il y a un problème, on peut très vite le dépister, parce qu'on sait d'où il peut venir. Donc, en général, c'est vraiment dans la continuité, et c'est bien que ça le soit, parce que ça permet d'intégrer ces travaux. Ça fait vraiment partie intégrante du reste de la construction du film. Donc, c'est indépendant, finalement, du passage en salle, puisque ce n'est pas du tout le même format. Mais en même temps, c'est dans la continuité.
En revanche, est-ce que, par exemple, des producteurs qui ont des films qui ont 2-3 ans seraient intéressés de refaire des bandes-son pour la télévision pour que leur film passe mieux?
Alors, on n'a jamais eu cette demande, mais c'est une très bonne question, parce que nous-mêmes, enfin les mixeurs de Hall et d'autres mixeurs, je pense, aimeraient bien revoir les bandes-son des DVD, par exemple, qui ont été faits il y a quelques années, parce qu'on était moins pointu, évidemment, sur les problèmes qu'on pouvait rencontrer chez les gens, par exemple, à la lecture des DVD, etc. Et donc, moi, il y a plein de films que j'aimerais bien revoir passer entre les mains de Niels et en mastering pour pouvoir optimiser évidemment le résultat chez les gens, quoi. C'est très difficile parce que sur un film, il y a un budget et nous, le mastering rentre dans ce budget. Donc, de rouvrir un budget, que la prod le fasse, c'est presque utopique. Après que, par exemple, un éditeur de DVD, etc., redemande des travaux de masterisation, pourquoi pas ? Mais enfin, on a, pour l'instant, la société est trop jeune.
On le voit bien dans les albums CD.
Ouais, alors peut-être. Ouais, ça serait génial. Moi, je souhaite que ça arrive. Ça ferait nous des gens heureux, je pense. Mais bon, pour l'instant, c'est peut-être en tout cas un processus trop jeune pour qu'on nous l'ait demandé. Je pense que ça se fait, par exemple, il y a sûrement des éditeurs qui ont dû demander ça sur des vieux films, par exemple, à des boîtes spécialisées. Dans les travaux vidéo, je pense. En tout cas, nous, dans notre façon d'aborder les choses pour des films, on va dire, produits récemment, ça ne nous est encore jamais arrivé.
Est-ce que c'est une méthode de travail qui se connaît et que l'on utilise souvent aux États-Unis ou ailleurs, ou vous êtes les premiers ?
À vrai dire, je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a sûrement des boîtes spécialisées. Je pense qu'ils ont strictement les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire les mêmes plaintes des gens qui trouvent que le son des DVD ne les satisfont pas parce que c'est trop dynamique ou il y a un manque de compréhension des paroles, d'intelligibilité. J'imagine qu'il doit sûrement y avoir des sociétés comparables. En tout cas, en France, à ma connaissance, même s'il y a sûrement des gens qui le font d'eux-mêmes, je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent, en tout cas par rapport à nous. Et surtout que le mixeur et du coup une partie de l'équipe du film, on propose par exemple au réalisateur de passer pour valider ça et pour dire si le résultat lui convient. Cette façon d'envisager les choses, en tout cas c'est la première fois que vraiment ce soit l'équipe qui a finalement produit le mixage et la bande son finale du film qui soit impliquée dans ce processus. Ça, c'est une première, je pense.
J'imagine que vous ne pouvez pas faire un nombre de films énorme au niveau de bande-son, puisque c'est toujours vous, enfin c'est vous qui le faites. Ça se traduit par combien de films par an, par exemple ?
Bah là, disons que là, c'est un peu jeune, c'est-à-dire que
vous avez des perspectives ou pas ?
Bah, ce qu'on sait, c'est que plus ça va, plus on en fait.
Ouais.
Et que c'est très encourageant, parce qu'évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure au début, il y avait des réticences, notamment au niveau des tarifs. Bien que je ne sois pas sûr que, mis bout à bout, tous les travaux qui devaient être faits pour adapter un mixage de manière traditionnelle avant nous, je pense que le cumul de tous les travaux qui étaient faits, on arrivait presque au même genre de coût. Mais là, en tout cas, au fur et à mesure, on fait de plus en plus de films. Je sais pas, ce mois-ci...
Voilà, c'était un mois où on a fait, je crois, 5-6 films. Mais en moyenne, je pense que c'est 3 par mois, 3-4.
C'est pas mal.
Ouais. C'est pas mal. Alors évidemment, comme il y a plusieurs mixeurs chez HAL, du coup, on essaye chacun des mixeurs, pour que le travail soit bien fait, on essaye d'amener les productions à travailler avec nous pour les mastering vidéo. Et maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'autres mixeurs qui sont intéressés.
En moins d'un an, vous avez pris un sixième de la production française, finalement.
Oh, peut-être pas quand même, je ne sais pas, mais non, je ne pense pas. Et puis, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment d'accéder à une meilleure qualité, de faire les choses mieux. Évidemment, on est très content si ça marche et surtout si les gens optent pour ce genre de solution parce qu'on est sûr que c'est la bonne. L'expérience nous l'a montré, mais disons qu'il y a vraiment un temps incompressible et ça, on a vraiment l'intention de garder cette qualité. Donc, on ne va pas faire comme les restaurants qui commencent fort et qui, au fur et à mesure, font des plats de moins en moins bons. Nous, on essaye vraiment d'accorder le maximum d'importance à chaque film. Donc, évidemment, le but, c'est pas d'en engranger énormément. De toute façon, HAL est une petite société, donc on n'a pas les moyens d'engranger un nombre de films hallucinant. De toute façon, je pense que ça sera pas le cas. Mais en tout cas, on est content parce que ça fonctionne et l'idée semble vraiment plaire à beaucoup de gens.
Votre société est toute jeune. Est-ce que vous allez faire comme certains artistes, c'est-à-dire choisir les films qui vous plaisent ?
Non, parce que... Non. Le but, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que tous les films qui se reconnaissent dans cette façon de faire les choses, tous les mixeurs, aient un résultat qui corresponde à leurs besoins, etc. Donc, On ne fait pas évidemment de sélection sur les films. Tout ce qu'on fait, c'est de dire c'est vraiment dédié aux films de cinéma. Et il ne s'agit pas de faire des téléfilms, par exemple, puisqu'ils n'ont pas les mêmes contraintes.
Mais je vais en parler, moi, tout de suite, justement. Ouais.
Et voilà, et après, tous ceux qui sont tentés par l'idée d'essayer, etc., on les accueille avec plaisir. Et voilà, après, c'est vrai que ça implique certaines choses, c'est-à-dire qu'il faut que le mixeur soit disponible, au moins pour passer, travailler avec Niels, valider les choses. Ça implique évidemment que la production soit d'accord pour payer cette prestation-là. Mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients que c'est un gage de qualité et en tout cas qu'on met du cœur et du soin à faire ces choses-là.
Alors vous parliez tout à l'heure des films avec des dynamiques assez fortes qui passaient à la télévision et qui devenaient inaudibles. Mmh. Ils ne sont pas tout seuls puisque actuellement depuis environ 2 ans on assiste à la télévision à une série de fictions françaises qui deviennent complètement inaudibles justement par ce problème de dynamique assez forte avec soit des bandes son qui sont très très fortes, donc on entend les bruits arrière qui sont plus importants que le type qui parle, et ce qui fait que maintenant, on a beaucoup de séries, enfin beaucoup de fictions qui deviennent inaudibles. Alors, vous dites que vous allez vous occuper que de films, mais si, par exemple, la télévision frappe à votre porte pour vous dire, ben voilà, on voudrait faire des DVD, mais avec des bandes-son correctes.
Alors, je pense pas que ça arrive, parce que dans la chaîne de... Enfin, dans la télé, vraiment, les films qui sont produits pour la télévision, il y a une chaîne de production déjà bien établie. Donc, c'est vrai qu'ils font rarement appel à des prestataires qui sont spécialisés dans le film. C'est sans doute malheureux. Mais voilà, il y a une façon de faire les choses qui est assez différente. Et c'est vrai qu'on a vraiment une dichotomie entre ce qui est fait pour la télé et ce qui est fait pour le cinéma, à la base. Donc, pour l'instant, on n'a jamais vu le cas se présenter. En tout cas, on serait assez d'accord, et puisqu'on a de plus en plus de contacts avec la télé, évidemment, puisque maintenant, les films tirent leur... les films sont vus vraiment en grande partie à la télé et en vidéo, enfin, sur les supports DVD. Donc évidemment, on essaye d'établir des ponts avec les instances techniques des chaînes de télé, puisqu'elles obéissent aux mêmes contraintes, etc. Elles ont les mêmes problèmes que nous, finalement. Et donc on s'aperçoit qu'en parlant ne serait-ce que techniquement avec les gens qui s'occupent des problèmes techniques dans les chaînes de télé, on apprend des choses, ils apprennent des choses, et ça fait évoluer. Voilà, c'est quand même une manière assez, assez différente, je pense, de produire. Et surtout, c'est deux circuits différents. Alors évidemment, il y a peut-être des films qui pourraient faire le pont dans le cadre de fiction télé qui peuvent passer en salle de cinéma, où là, ça serait peut-être plus évident.
Tu parlais tout à l'heure de 8 à 9 formats. Vous pourriez rapidement nous les lister, nous dire un petit peu si c'est du multicanal, du stéréo, et nous dire un petit peu quelles sont les contraintes qui s'appliquent à chacun en termes de bande passante, j'imagine, parce que quand on est sur les haut-parleurs de la télé, c'est pas pareil que quand on s'adresse à quelqu'un qui a un 5.1, les dynamiques, etc. Est-ce que vous avez toutes ces données-là en tête?
Ben, le premier format en fait que j'ai l'habitude de faire, c'est le format Blu-ray, parce que la première raison en fait, c'est qu'il est à 24 images par seconde, donc la même cadence que le film. Et en fait, c'est un format où il y a deux formats en fait, il y a le 5.1 Blu-ray et le stéréo Blu-ray. Pour le 5.1 Blu-ray, j'ai tendance à penser que les installations en fait Blu-ray chez les personnes sont quand même des installations de bonne qualité, donc on peut se permettre d'avoir une dynamique importante. Donc dans ce cas, j'essaie de préserver une bonne dynamique.
De l'ordre de...
Ben là, ça dépend du film. Quoi. Ouais, c'est dur de dire. En fait, moi, j'adopte un niveau d'écoute qui est de 70... Enfin, pour le Blu-ray, en fait, j'écoute à 79 dB SPL. Et donc j'essaye à ce niveau de garder quand même tous les sons, de conserver en fait même les séquences assez faibles, qu'on n'ait pas vraiment l'envie de changer le niveau, mais qu'on ait quand même un côté spectaculaire dans les niveaux forts. Donc en fait, la dynamique, elle est plutôt du côté de la limitation, parce que là, on n'est pas obligé de limiter en dessous de 0 dBFS, par exemple. Après, donc voilà, il y a une version stéréo pour le Blu-ray, donc toujours à 24 images par seconde, et pour la version stéréo, on peut se dire que quand même, les personnes qui achètent un Blu-ray et qui regardent en stéréo, c'est qu'ils ont une installation peut-être plus bas de gamme. Donc dans ce cadre, là, j'ai une dynamique beaucoup plus... j'essaie d'avoir une dynamique plus faible. Donc après, on a les formats DVD. Donc là, il y a également 5.1 et stéréo. Donc les DVD, en fait, c'est pas du tout la même cadence. C'est 25 images par seconde. Pour ça, en fait, on est obligé de faire une harmonisation. Donc, en fait, ça veut dire qu'on adapte la bande son pour qu'elle soit plus rapide, mais qu'on conserve la tonalité. Donc là, c'est un calcul qu'on effectue et qui prend 20 heures pour le film, à peu près. Ouais. Donc, c'est assez long. Donc, en fait, pour le DVD, j'essaie d'avoir une dynamique quand même plus faible que le Blu-ray, parce que je considère quand même que... Il y a beaucoup d'installations DVD qui sont quand même de mauvaise qualité. Je pense que c'est plus commun en fait que le Blu-ray. Après, il y a aussi des formats en fait télé. Donc il y a un format 5.1 et un format stéréo. Donc là, la télé, ben, j'essaie d'aller dans le sens justement de l'installation plus bas de gamme et de rendre la dynamique encore plus faible. Et évidemment, pour la télé stéréo, là, c'est encore pire parce qu'on est limité à moins 9 dB FS. Enfin, maintenant, c'est ça la norme. À la vérification, c'est ce qu'ils constatent en fait. D'accord. Dès qu'il y a des niveaux supérieurs, ils refusent. Ça, c'est vraiment le format le plus dur parce qu'on ne doit pas dépasser ce niveau. Donc, dès qu'on a des séquences assez dynamiques avec des niveaux forts, des concerts, là, c'est très très compliqué quoi de faire rentrer tout ça. Et après, on a également des VI en fait. C'est les versions internationales sur lesquelles on va insérer, enfin, les étrangers vont insérer des doublages. Donc là, on fait, ça dépend en fait, là c'est vraiment les productions qui choisissent. Mais en général, on fait une version 5.1 à 25 images par seconde et une version stéréo à 25 images par seconde, voilà.
Mais en fait, on a pris le parti d'aller du meilleur au pire. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'entonnoir, on part de la version qui pourrait idéalement se rapprocher le plus de la version cinéma, qui est la plus spectaculaire, et forcément les gens qui possèdent ce genre d'installation sont en général ceux qui sont le plus à même d'écouter les films relativement forts sur des bonnes enceintes, sur des bons systèmes, qui savent les régler, etc. Alors que ceux qui vont écouter le film juste à la télé, comme ça, sur leur télé, quel qu'en soit l'âge ou la qualité, et ben évidemment ces gens-là ont besoin quand même d'avoir tout ce qui est nécessaire à l'écoute du film pour entendre les dialogues, pour comprendre les effets sonores, etc. Et donc il faut que la dynamique soit très réduite sur ces formats-là. Et on était évidemment, la création de cette salle de mastering était évidemment liée au fait que nous-mêmes, on avait des grosses frustrations de ne pas entendre les dialogues de certains films qu'on avait mixés, de constater que sur les DVD, justement, on passait notre temps à changer les niveaux parce que quand les effets sonores, les scènes d'action arrivaient, on s'en prenait plein la tête. Et quand les scènes dialoguées intimistes... suivait, ben, on n'entendait plus rien. C'est pour ça qu'on fait autant de formats. Alors après, le problème, c'est que ça ne suit pas toujours. C'est-à-dire que tant que ça reste dans les mains de la production, tout le monde est au courant de quel format correspond à quel support au final. Mais après, pour des besoins, de temps en temps, c'est vrai que les formats stéréo qu'on fait, par exemple, pour les Blu-ray et les DVD, ne sont pas systématiquement choisis pour des raisons de place. C'est-à-dire que souvent... à l'édition du DVD, ils choisissent de mettre des bonus, donc ils ne veulent pas s'encombrer d'une version stéréo. Donc ils font une réduction stéréo à partir du 5.1 qu'on leur livre. Et là, forcément, la réduction est faite par la machine, le processeur, chez les gens, donc c'est beaucoup plus instable et délicat. C'est très compliqué tout ça. Et voilà, on s'est un peu tiré les cheveux pour trouver des façons, c'est vrai, un peu complexes. Parfois, c'est un peu une usine à gaz pour essayer de faire les choses bien, mais on y arrive. Et puis, malgré toute cette complexité, on a le sentiment que les résultats sont de mieux en mieux, quoi.
Et comment vous gérez, je ne sais pas si vous faites un mixage particulier pour les formats de streaming, type, je pense à l'Apple TV, par exemple, avec iTunes, qui propose des films en téléchargement HD ou pas.
Pas encore, mais peut-être qu'un jour, on y... Ouais, sans doute. Après, il faut qu'il y ait, c'est vrai, une demande, mais évidemment qu'on y pense. Évidemment qu'on y pense. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que si on doit encore rajouter des formats, sur certains films, on arrive jusqu'à 11 formats quoi, différents. Ah ouais. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Peut-être qu'on y viendra, ouais.
Alors j'imagine que quand vous arrivez à 11 formats différents, ce sont des grands films. Je veux dire, c'est pas le petit film avec un petit budget CNC et autres qui va se permettre de ce genre d'opération.
Ouais, évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que parce que c'est pas, pour l'instant, c'est pas un poste comme ils disent qui est encore prévu dans la production du film. C'est-à-dire la masterisation vidéo. Voilà, il n'y a pas de case en face pour dire on alloue un budget à ces travaux-là. Donc évidemment, autant on peut convaincre un film sur lequel il peut rester quelques financements pour faire un mastering, autant c'est beaucoup plus difficile quand déjà il n'y a pas beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour le mixage, et les temps se réduisent comme des pots de chagrin. Donc ouais, c'est compliqué. Mais on essaye de convaincre que c'est important et je pense que les productions en ont de plus en plus conscience parce que finalement, ils sont des gens comme nous, c'est-à-dire quand ils regardent les films chez eux et qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils entendent, eh ben, peut-être que ça les fait réfléchir et qu'ils se disent ben, il faudrait peut-être faire quelque chose, quoi. J'ai l'impression et j'espère que de plus en plus, les gens vont être sensibilisés à ces problèmes-là. Ils le sont déjà, je pense. Après, qu'ils engagent les moyens pour le faire, c'est autre chose. Mais...
Alors, comment ça se passe pour les films étrangers? Je veux dire, ceux qui sont vendus en DVD en France et qui sont passés à la télévision. Est-ce que dans ces cas-là, l'opération est faite en amont par les Américains ou par les producteurs américains? Ou alors, on fait appel à vous?
Alors, on ne fait jamais appel à nous, puisque, encore une fois, c'est assez nouveau et, ouais, on ne fait pas. Je pense que
ça
là...
Ça peut se faire ou...
Oui, ça pourrait se faire, mm-mm. Tout à fait. Après, nous, on s'est édicté, on va dire, des règles comme la présence d'un membre de l'équipe du son pour valider ce qu'on fait, etc. Donc là, ça serait évidemment plus compliqué. Ouais, ça pourrait très bien se faire. Après, je sais que... Selon les pays, par exemple, quand un DVD est édité aux États-Unis pour un film américain, par exemple, eh ben, c'est une boîte d'édition évidemment américaine qui fait les travaux. Quand la version française est faite, elle est faite en France. Donc finalement, les traitements ne sont pas forcément les mêmes. Donc j'imagine que les résultats varient beaucoup. Et après, c'est finalement le prestataire... qui choisit d'appliquer ou non, par exemple, une compression dynamique sur le son. C'est lui qui s'occupe de la facture. Donc là encore, il y a des habitudes. C'est toujours très difficile de changer les habitudes. Justement, nous, on y arrive parce qu'on est une étape de la production et on est acteur de la production d'un film. Donc on peut, pas imposer, mais on peut faire plier, incliner le résultat vers ce qu'on prône, quoi. Autant quelque chose sur lequel on n'a aucune... un film sur lequel on n'a aucun rôle, au départ, c'est très difficile de dire bah, « Venez chez nous, vous allez voir, c'est formidable. » Donc, on y va petit à petit, mais si vraiment les gens jugent que le jeu en vaut la chandelle, et ben, peut-être que ça arrivera, ouais. Encore une fois, on est très jeune, donc... En tout cas, c'était pas fait avant et on a le mérite d'avoir travaillé dessus et d'avoir acquis une expérience essentielle puisque Niels, qui est sorti de Louis Lumière il y a peu de temps, a fait son mémoire de fin d'études sur ce sujet-là. Donc, il était évidemment tout désigné. Il a fait de nombreuses études et de nombreux essais sur les différentes méthodes qui existaient déjà pour faire ces travaux-là, sur justement les procédés d'harmonisation, de rétablissement de la tonalité juste des voix, même dans le cadre d'un passage à 25 images secondes. Voilà, on a acquis vraiment une expérience et une compétence, et ça, c'est unique. Alors, on ne désespère pas d'intéresser peut-être d'autres gens auxquels on n'aurait pas songé au départ.
On peut parler un petit peu de matériel. Mmh. Qu'est-ce que vous utilisez comme type de matériel pour faire ça?
Bah là, c'est très simple. On a vraiment pris le parti, contrairement à ce qui était fait avant, d'essayer de se rapprocher le plus possible d'une configuration domestique. Donc Niels peut vous en dire plus.
Bah en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans une salle qui n'est pas complètement traitée acoustiquement. Donc ça pourrait ressembler un peu à un salon. Donc on a quand même, on essaie de ne pas avoir trop de défauts acoustiques, mais on a quand même... une salle qui ressemblerait au niveau acoustique à un salon avec un peu de résonance dans le bas, surtout dans les graves. Donc pour retrouver quelque chose qui pourrait correspondre à ce qu'on a à la maison. Un peu de bruit de fond, parce que à la maison on a ça aussi. Et du coup à partir de ça, on peut travailler disons dans des conditions qui diffèrent totalement de la salle de mixage, qui est une salle quasi, enfin pas anéchoïque, mais où on n'a pas du tout de bruit de fond et peu de résonance. Donc ensuite, on a une écoute... on a deux écoutes en fait, 5.1. Une écoute Mackie CD H824 et une écoute Bose Acoustimass. Donc là, c'est l'écoute qu'on retrouve le plus chez les personnes. Et ces deux écoutes, en fait, elles sont assez complémentaires parce que on a une écoute Bose avec du bass management, donc ça veut dire que tous les graves qui vont dans tous les canaux sont redirigés vers un sub. Donc ça, c'est assez intéressant, en fait, d'écouter ce rendu. Et on a les maquis qui sont un petit peu plus... Enfin, qui sont du domaine un peu plus de la haute fidélité, mais qui pourraient se retrouver chez une installation un peu plus haut de gamme. Et on a aussi une écoute stéréo à travers la télé. Donc en fait, à partir de ces trois écoutes, on peut juger quand même de la compatibilité du mixage. Sinon, pour parler matériel...
Oui, matériel pur, est-ce que vous utilisez des processeurs, enfin, qu'est-ce que c'était... Comment vous bossez?
Nous, en fait, on travaille beaucoup à partir de plugins. Parce que notamment, on a beaucoup de difficultés à trouver des processeurs analogiques 5.1, vu qu'on travaille à partir de matière 5.1. Et on travaille beaucoup avec les Flux, en fait.
Ouais, en fait, Al a une collaboration assez étroite avec cette marque de plugins qui s'appelle Flux, et qui est une boîte française basée à Orléans. Non seulement on les trouve très compétents, mais aussi très sympathiques, et vraiment, ils sont parmi les rares qui développent vraiment pour le multicanal et qui pensent vraiment à nos problèmes, alors qu'en général les outils qu'on utilise, les outils informatiques, sont des outils qui sont faits, construits à la base pour la musique et donc pour des programmes stéréo. Donc avec Flux, on a trouvé vraiment des gens qui comprennent bien nos problèmes, etc. Et donc évidemment, on utilise une grande majorité de leur logiciel. Sinon, ben, c'est assez simple, c'est un Pro Tools, puisque tous les fichiers en général qui viennent des auditoriums sont soit lisibles, soit enregistrés sur Pro Tools. Tous les prémix nous viennent sous forme de fichiers Pro Tools qu'on intègre à des sessions, et après on mixe en utilisant une interface de contrôle de ce Pro Tools, Euphonix. Et évidemment, la partie la plus importante, c'est le monitoring. Alors on a un monitoring de grande qualité, c'est un Grace Design M906, qui nous permet de pouvoir passer d'une écoute à une autre, puisqu'on a du coup trois écoutes. Alors ces trois écoutes, comme Nils le disait, il y a une écoute stéréo, télé, vraiment très basique. Pour l'écoute Bose, on a demandé à des revendeurs grand public quel était le système qui vendait le plus de tous, et sans aucune hésitation, ils nous ont dit voilà, c'est celui-là, c'est le Bose. Donc on a pris celui-là pour essayer de coller un maximum d'installations. Et les maquis, qui sont plus des enceintes de monitoring studio, on va dire, effectivement, qui permettent d'être assez représentatifs d'une installation de meilleure qualité. Et à l'avenir, on envisage, parce que notre salle est actuellement dans un local, et on envisage de déménager dans un peu plus grand, toujours dans le même cadre, mais un peu plus grand, et de créer pour le coup vraiment une installation de prestige, c'est-à-dire hi-fi très haut de gamme, audiophile, quoi, pour avoir encore un autre niveau d'écoute dans des conditions, on va dire, qui seraient plus proche d'une situation de mastering musique, mais pour essayer de coller au mieux à une très très bonne installation cinéma en 5.1 pour le coup. Donc voilà, c'est les évolutions qu'on attend. Mais voilà, finalement, le matériel, c'est pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas tellement de traitement. Le but étant de se dire, voilà, les problèmes que les gens ont chez eux viennent en partie du fait qu'ils n'écoutent pas dans des super conditions. Il y a du bruit, il y a les voisins, ils ne peuvent pas mettre trop fort... Il y a des résonances souvent dans le grave, les bas médiums, ce qui est le plus calamiteux pour les voix, parce que quand les voix sont trop chargées dans ces fréquences-là, ben, du coup, ça pose des gros problèmes d'intelligibilité. Et donc, le but était de se dire, on ne peut pas travailler pour une écoute qui est comme chez les gens, quand on écoute sur un monitoring de super haute qualité, qui est plate de 20 à 20 000, ce qui n'est pas le cas en cinéma d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut essayer de coller au mieux, même si on ne peut pas avoir une solution universelle, de coller au mieux à une écoute domestique. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, évidemment, on n'est pas représentatif de tout. Mais en tout cas, on a une plage assez large.
Comment ça se traduit pour le kidam moyen qui veut acheter un DVD ou autre, pour choisir entre les 11 formats? Comment ça se passe?
Lui, il n'a pas de questions à se poser, puisque lui, il choisit le format sur lequel il veut voir et écouter son film.
Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, 11 DVD différents? Comment ça se passe?
Non. Il y aura un seul DVD, mais qui réunira, dans le cadre des travaux qu'on fait, deux formats, un format 5.1 et un format stéréo. Alors évidemment, le format 5.1 pour le DVD, c'est celui qui est réservé, on va dire, aux gens qui ont une installation home cinéma. Et le format stéréo à ceux qui n'ont pour écouter le DVD que les haut-parleurs de leur télé ou des haut-parleurs stéréo. Ensuite, les gens qui achètent les Blu-ray auront les mêmes types de choix à faire, c'est-à-dire soit 5.1, soit stéréo. Mais en général, ceux qui ont des DVD, ceux qui ont des Blu-ray, en général, ont une installation home cinéma. C'est un minimum, puisque c'est des férus de cinéma, ça leur plaît. Donc en général, ceux-là iront plutôt vers le format 5.1. Et puis pour la télé, c'est la même chose. En gros, ils ont le choix entre 5.1, quand ils ont le choix, entre 5.1 et stéréo. Donc évidemment, le format 5.1 est toujours plus dynamique, plus respectueux du format original du film qui est 5.1. Et le format stéréo est souvent réduit à la fois en termes d'espace, puisque c'est sur deux haut-parleurs, et en termes de dynamique, puisque en général, on estime que quand on écoute un programme en stéréo, c'est soit sur sa télé, soit sur des enceintes de moins bonne qualité.
Et pour le futur, les audiophiles, ils choisiront où ?
Eh bien, les audiophiles, ils choisiront toujours sur le pour l'instant. Il va sans doute y avoir des nouveaux formats, sûrement dématérialisés d'ailleurs, sur leur ordinateur. Ce sera des fichiers qu'on, je pense, on téléchargera comme on télécharge de la musique sur iTunes, etc. En tout cas, eux choisiront pour l'instant. Moi, si j'étais un audiophile, je choisirais le Blu-ray et j'écouterais le format 5.1 ou 7.1 ou 8.1 ou 10.2, 22.4, j'en sais rien. Mais voilà, c'est évident. Évidemment, le Blu-ray, le 5.1 du Blu-ray, qui est le format le plus proche de la version cinéma.
Bien. Plus de questions, Christophe.
Non, je cherche, mais non, je pense qu'on a bien fait le tour.
Alors, vous êtes combien dans cette société ?
Eh ben, on est 11. On est 11, alors ça fait un paquet de monde, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de concertations. Niels est notre ingénieur du son mastering, donc... Ça fait 12 avec Niels, en fait, parce que Niels n'est pas actionnaire de la société, mais il travaille pour la société. Ça fait beaucoup de gens, beaucoup de, parfois, de contradictions, mais on a tous la même aspiration, c'est-à-dire d'essayer de faire les choses le mieux possible, tout au long de la chaîne du cinéma. Donc, voilà, c'est bien parce qu'on confronte nos idées et on a tous le même objectif. Donc, voilà, c'est une petite société avec beaucoup de gens. mais on essaye, c'est une société qui a pour but d'essayer de trouver des nouvelles solutions. On a constaté par exemple, les sociétés, les prestataires de services en termes de films, que ce soit les auditoriums ou les boîtes de location en général, faisaient peu de recherche et développement. Nous, on s'est dit que HAL ferait de la recherche et développement, et on en fait, pour trouver des nouvelles solutions, des nouveaux outils qui correspondent aux besoins qu'on a et qui évoluent sans cesse. Et peut-être parfois aussi, quand c'est possible, une nouvelle façon, de nouvelles méthodes dans la façon de travailler. Et voilà, le mastering est un peu la preuve qu'en ayant des idées finalement pas très compliquées, assez simples, on peut arriver, je pense, à améliorer les résultats et faire en sorte que les choses soient mieux faites. C'est 11 ingénieurs du son qui essayent de faire les choses le mieux possible.
Quelque chose à rajouter, Niels, un mot de la fin ?
Un mot de la fin. Non, c'est vrai qu'on a peut-être pas beaucoup parlé de la manière dont on abordait les choses, en fait, pendant le mastering. Mmh. Parce que finalement, on se retrouve dans des conditions qui diffèrent, et de la salle de l'auditorium, en fait, de mixage. En fait, il y a vraiment des différences. Par exemple, quand on baisse le niveau d'un mixage, on va dire de type cinéma, et qu'on l'écoute plus faible, on va avoir vraiment une autre approche, j'ai l'impression. Parce que... on est face à un écran plus petit et on a besoin que les sources soient hiérarchisées d'une autre manière. Par exemple, dans une séquence où dans la salle de cinéma, on aurait beaucoup de musique, on va dire une boîte de nuit, là, on peut, dans la salle de cinéma, avoir beaucoup de dynamique, beaucoup de niveaux et on ne sera pas gêné. Mais par exemple, quand on est dans la salle de mastering, on va s'apercevoir qu'à bas niveau, la musique, elle va prendre une place énorme et que les voix, on ne va plus du tout comprendre ce qui se dit. Donc c'est là, en fait, qu'on essaie de hiérarchiser les sources un peu différemment. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que le mastering, c'est... on réduit la dynamique, mais on l'aménage aussi d'une autre manière, en fait.
Ouais, tout ça quand même pour essayer de coller, d'avoir quand même... C'est ça qui est dur, c'est que le cinéma, c'est toujours... Finalement, on passe notre temps à essayer de donner des impressions, parce que tout est faux dans le cinéma. Donc là, finalement, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire que ce qu'on veut arriver à procurer, même si on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas dans une salle de cinéma, on n'écoute pas de la même façon, mais on essaye de procurer finalement les mêmes sensations. Et ça passe, paradoxalement, par une façon de faire les choses totalement différente du travail en auditorium quand on fait le mixage du film. Donc voilà, c'est... une nouvelle fois, on est des assassins et on change complètement le mixage, mais c'est justement pour essayer de le respecter au mieux.
En fait, garder une espèce de relief, de spatialisation du son au niveau du film quand il passe à la télévision.
Ouais, et que le réalisateur, finalement, que ce soit transparent pour lui ou le mixeur, c'est-à-dire que, évidemment, s'il écoute son film dans la salle de mastering en arrivant comme ça sans qu'aucun travaux n'ait été fait, il est troublé, il est même inquiet parce que on ne l'écoute pas pareil du tout et c'est moins fort, ça paraît mou, il y a plein de choses qui passent à l'as, etc. Et le but vraiment de Nils, de l'ingénieur du son mastering et de cette étape, c'est d'arriver à rendre un peu, même le plus possible, de ces sensations qu'on avait quand on était en salle de cinéma et qu'on écoutait ce film. C'est pas juste des petites subtilités, etc. Il faut vraiment... c'est un travail, quoi.
On s'en rend compte hein, que ce sont pas des subtilités quand on regarde un film à la télévision. Voilà. On s'en rend compte qu'il y a un besoin important.
Non, mais voilà. Donc, il faut vraiment... c'est pas des petites modifs. Au début, c'est ce qu'on pensait. On se disait, ouais, bon, ben... Voilà, on a le 5-1 d'origine, on fait quelques petites, une petite réduction de la dynamique, etc. Ça va très bien passer. Ben non, il faut aller plus loin et c'est ce qu'on fait. Alors, mais toujours, encore une fois, en essayant de veiller au maximum à respecter l'œuvre de départ. C'est-à-dire, il n'est pas question, évidemment, de réinterpréter le mixage, au contraire.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à Cyril Holtz. Merci à Nils Barretat de la société HAL.
Merci
donc,
beaucoup.
Toute merci. Jeune société, et ben, je vous souhaite longue vie et beaucoup de travail.
Merci beaucoup.
Merci à Christophe.
Avec grand plaisir. Je vais en profiter juste deux secondes pour faire une petite annonce.
Oui.
Pour deux événements qui vont intéresser les gens du son. Le 11 et le 12 avril 2011 vont se tenir les Audio Days. C'est un événement qui aura lieu au studio Twin à Paris et qui aura la particularité de, contrairement aux autres salons et aux autres événements, de faire venir uniquement des fabricants qui vont venir parler de leurs produits, qui vont également faire des conférences. Alors je vous en donne quelques-uns pour vous mettre l'eau à la bouche. Il y aura David de Cranesong, David Josephson pour Josephson Engineering, Jonathan Little pour Little Labs, Jesper Bonilson pour TubeTech. Voilà, ça aura lieu donc le 11 et 12 avril au studio Twin. Et tout juste un mois après, je crois que c'est le 10 et le 11 mai cette année, il y aura les rencontres de la création sonore qui sont organisées par Gisèle Clark et le magazine Réalisation qui auront lieu à la SAE. Donc deux événements pour les férus de son à ne pas rater.
Bien, merci à vous merci. Tous, à très bientôt. Autre radio, autre culture, à bientôt. Autre radio, autre culture.